Tout de suite, votre journal. Il est 5h sur Europe 1.
S'il multiplie les déplacements, le chef de l'État dans les Hauts-de-France, ça donnera sans doute encore plus d'opportunités pour Xavier Bertrand d'être confronté à un certain nombre de points de vue sur des sujets d'actualité.
Xavier Bertrand et ses soutiens veulent déjà s'installer dans un match contre Emmanuel Macron. Conforté hier par sa victoire dans les Hauts-de-France, il doit aussi faire avec ses rivaux à droite, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Le brevet pour les collégiens de 3e, les épreuves écrites commencent aujourd'hui. Mais rien qu'en histoire géo, par exemple, une quinzaine d'heures de cours ont été perdues cette année du fait de la pandémie. Et puis nous verrons comment en plein Paris, le trafic de crack et l'insécurité qui en découle ont conduit à des tirs de mortier d'artifice sur des toxicomanes.
À suivre votre journal des sports, notre pressing du matin, et puis nous serons dans le Puy-de-Dôme tout à l'heure chez notre éleveur bovin pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Xavier Bertrand avait fait de cette élection régionale une sorte de primaire de qualification pour l'Élysée. Avec 52% des voix, devant le RN à 25% et la gauche à 22%, objectif rempli. Hier soir, 20h était à peine passé qu'il affirmait en direct sur toutes les chaînes que cette victoire lui donnait la force d'aller à la rencontre des Français. Il va, dès ce matin, avoir l'occasion d'un face-à-face avec Emmanuel Macron en déplacement sur le site de Renault à Douai.
Pour Europe 1, Lionel Gougelot était hier soir au QG du président réélu dans les Hauts-de-France.
Devant ses supporters, Xavier Bertrand donne le ton de ce qui sera son discours de candidat. Sécurité, valeur travail, comme en son temps Nicolas Sarkozy, sans pour autant renier son identité de gaulliste social.
Ma priorité, ce sont les classes moyennes et les catégories populaires.
Un candidat proche du terrain qui séduit René, un électeur de Saint-Quentin.
Ce n'est pas un élarque, ce n'est pas un gars qui a été dans les grandes écoles, mais c'est mieux qu'eux. Il travaille pour le peuple.
Xavier Bertrand, dans la course à l'Élysée, beaucoup pensent ici qu'il devient le leader naturel de la droite.
Il est capable, je crois, de fédérer toute une droite républicaine aujourd'hui.
Pour imposer désormais un match à trois avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Puis de toute façon, Madame Le Pen, elle ne doit pas être ravie aujourd'hui parce que les résultats sont vraiment très très mauvais pour elle partout.
Alors ce matin, à Douai, on guettera le face-à-face Macron-Bertrand à l'occasion de l'annonce d'un site de production de batteries pour l'usine Renault. Christophe Coulon, colistier de Xavier Bertrand, s'en amuse à l'avance.
Le dispositif qui sera réservé à Xavier Bertrand sera sans doute de ne pas trop lui laisser d'espace, mais peu importe. S'il multiplie les déplacements, le chef de l'État dans les Hauts-de-France, ça donnera sans doute encore plus d'opportunités pour Xavier Bertrand de peut-être confronter un certain nombre de points de vue sur des sujets d'actualité.
Reste à savoir si cette victoire électorale de Xavier Bertrand se concrétisera dans les intentions de vote pour 2022. À Saint-Quentin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Si on élargit la focale sur ces élections régionales, on retient à nouveau cette abstention des deux tiers qui écrase les résultats. Pour ce qui est des votes exprimés, les Républicains et les Socialistes sont rassurés, voire renforcés. Les présidents de région sortants sont tous réélus et les écologistes s'enracinent dans le paysage. En revanche, La République En Marche et le Rassemblement National ne remportent aucune région.
Oui, déception pour le parti de Marine Le Pen, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où Thierry Mariani semblait bien placé. Celui-ci a dû concéder à Renaud Muselier la victoire hier soir.
Merci à tous nos militants qui, depuis 2 mois, ont livré une bataille inégale de manière exemplaire. Notre liste a été battue par tout un système coalisé. Par un candidat qui a vu les 3 derniers présidents de la République voler à son secours. Par un candidat qui a vu la majorité des médias se mobiliser pour sa réélection, parfois au mépris des règles de la plus élémentaire déontologie. Par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite.
Thierry Mariani hier soir. Ce scrutin était donc le dernier avant la présidentielle dans 9 mois et demi maintenant. Autant dire que la dernière ligne droite du quinquennat est assez courte et l'enjeu pour Emmanuel Macron, comment utiliser ce temps qui lui reste, remanier, réformer, gouverner tout en faisant campagne. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, nous résume les questions qui se posent.
En réalité, Emmanuel Macron a déjà commencé à tirer les leçons du scrutin. Tout d'abord, il est conscient que son parti, La République En Marche, ne fonctionne pas. Un parti qui ressemble plus à une armée de cliqueurs, comme l'a qualifié le sénateur François Patriat, qu'à une véritable force militante. Plusieurs noms, dont celui du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a fait un sans-faute à son poste, sont évoqués pour remplacer Stanislas Guérini. Ensuite, le chef de l'État a l'intention de remanier son gouvernement autour du 5 juillet. Un réajustement technique, selon l'Élysée, pour faire sortir une petite dizaine de ministres jugés fatigués ou tout simplement pas au niveau. Un remaniement dont il sait par ailleurs qu'il aura peu d'impact dans l'opinion publique. Enfin, Emmanuel Macron veut montrer qu'il gouverne jusqu'au bout. Selon plusieurs de ses proches, il pourrait bien créer la surprise en annonçant un symbole, faire adopter la réforme des retraites avant 2022. Un pari audacieux, mais Emmanuel Macron sait que s'il ne surprend pas, il ne parviendra pas en 2022 à recréer l'enthousiasme des premiers jours.
Louis de Raguenel pour Europe 1, et on reparlera, on essaiera de tirer tous les enseignements de ces résultats des régionales à 6h40 tout à l'heure avec Édouard Le Cerf de l'Institut de Sondage BVA. Il est 5h06 sur Europe 1, c'est le début des épreuves écrites de français, de maths, d'histoire géo et de sciences au brevet aujourd'hui.
Oui, les épreves étalées jusqu'à demain. 860 000 candidats passent cette année, ce qui est en fait le premier examen important de leur vie. Des collégiens un peu déboussolés, eux aussi, comme leurs aînés de terminale, hein, par cette drôle d'année sous Covid qui a pas mal chamboulé la préparation, Virginie Riva.
Oui, car les collégiens ont eux aussi dû faire des cours à distance. Après le confinement d'avril, les 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie ont dû reprendre en demi-jauge pour 5 semaines. Au final, un peu plus de 2 mois perturbés dans ces zones, ce qui a beaucoup désorienté les élèves. Et pour les profs, ça a forcément ralenti l'avancement du programme. En histoire géo, c'est près de 15 heures perdues en tout sur la période. Pour Valentine, en 3e à Sèvres, c'est cette matière qui lui fait le plus peur, car elle n'a pas pu tout voir en classe.
Oui, en histoire géo, on est très en retard. Il y a des chapitres qu'on n'a pas eu le temps de voir, ou même enfin, qu'on a vu très 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 vite. Forcément, on est stressé parce que l'année, on sait qu'elle a été différente, on sait qu'on a moins eu d'aide pour comprendre que les autres années. Mais je pense aussi que les personnes qui vont faire les sujets de brevet, ils savent que cette année a été compliquée et du coup, ils vont pas faire des choses trop dures.
Voilà l'espoir de Valentine, comme de nombreux autres élèves. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il demande de la bienveillance aux examinateurs pour ce brevet. Et de toute façon, la note de contrôle continu compte tout de même pour 50% dans la note finale.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe.
On en vient à ces tensions très vives à Paris, dans le 19e arrondissement, sur fond de consommation de drogue.
Oui, du crack, ce stupéfiant dérivé de la cocaïne et aux effets de dépendance extrême. Ce week-end, samedi, ce sont, semble-t-il, des jeunes de ce quartier qui ont visé les toxicomanes avec des tirs de mortier. Le ras-le-bol est tel que les habitants comprennent en quelque sorte le geste des jeunes. Yasmine Akatou.
Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut plus sortir de chez nous.
Adrien vit juste au-dessus du jardin des Halles, point de ralliement des toxicomanes du 19e. Sa femme et lui se sont déjà fait agresser par des consommateurs de crack. Adrien se sent dépossédé de son quartier, comme les jeunes qui ont tiré au mortier, selon lui.
Ça doit être des jeunes d'ici. C'est dans un parc où ils allaient jouer au foot tous les jours. Ils ne peuvent plus y aller. La seule solution qu'ils ont, c'est de tirer dessus parce que la police ne fait rien et que la police ne veut pas leur rendre leur parc.
Tarak vit, lui, à quelques rues du jardin. Habitant du 19e depuis 13 ans, il a vu son quartier se dégrader d'année en année.
Ça me surprend pas ce qui se passe. C'est clair que les jeunes, ils vont pas s'arrêter là. On a essayé un petit peu de les calmer. On leur a dit de pas faire ça, surtout la journée, parce que c'est idiot, il y a des enfants dans le parc. Du coup, on est prisonniers, on est entre les deux.
Alors plusieurs collectifs de riverains militent pour retrouver un quartier vivable. Frédéric Francel est porte-parole du collectif 19.
Il y a des pipes à craquer un petit peu partout, il y a des seringues dans les buissons. C'est une catastrophe, là. Il va falloir s'occuper de tous ces gens-là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient vraiment encadrés pour être soignés et sevrés.
Dans 2 jours, la mairie de Paris prévoit d'évacuer les toxicomanes du Jardin des Halles.
Reportage européen de Yasmine Akatou à Paris.
Alors que les 8e de finale de l'Euro ont commencé, on va y revenir dans quelques secondes dans le journal des sports. Vous êtes peut-être nostalgique et on en parlait tout à l'heure des vignettes Panini.
Oui, ces bonnes vieilles cartes qui sont devenues numériques. La start-up Sorare vient de nouer un partenariat avec les fédérations françaises de football, Clément Le Saffre.
Oui, en fait, ces cartes, ce sont des NFT, des objets numériques authentifiés par la blockchain. C'est la technologie qui soutient le Bitcoin et empêche toute copie frauduleuse. Chaque carte est donc unique. On les acquiert à l'unité ou par pack. Brian O'Hagan est responsable du développement de Sorare.
Les cartes sont mises en vente sous format d'enchères. Donc au final, ce sera celui qui va enchérir le plus qui gagnera la carte. Et une fois qu'on possède une carte, on peut l'utiliser dans un jeu vidéo, un jeu de fantasy football. Et puis on peut également revendre la carte si l'on souhaite. Et ça, l'avantage par rapport à une carte Panini, c'est qu'on peut revendre ces cartes à qui que ce soit dans le monde.
Alors une condition quand même, y mettre le prix. Le minimum est de 4 euros pour des cartes de joueurs moyens et ça monte jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour les stars ou les cartes en édition limitée. On constitue ensuite son équipe pour affronter d'autres joueurs en ligne. Sorare compte aujourd'hui 90 000 aficionados et les footballeurs eux-mêmes se sont pris au jeu. Antoine Griezmann a déboursé 63 000 euros pour acheter une carte spéciale de son coéquipier en bleu Kylian Mbappé. Et ce n'est même pas un record. En mars, une carte de Cristiano Ronaldo s'était vendue 240 000 euros.
Clément Le Saffre.
Les prix sont complètement délirants. On ne parle même pas d'une carte qui existe physiquement. C'est quelque chose qui est sur un téléphone. On est d'accord. On parlera des vraies vignettes Panini. Moi, je suis beaucoup plus nostalgique des vraies vignettes qu'on collait sur les albums, cours de récré. On aura un collectionneur qui sera avec nous tout à l'heure à 6h15. François Geffrier pour le journal. Il est 5h10. Et bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Le journal des sports sur les vrais terrains avec à la une.
C'est ça, sans vignette.
Jour de match pour l'équipe de France de foot.
Évidemment, huitième de finale de l'Euro ce soir, 21h à Bucarest. Les Bleus vont affronter la Suisse. Premier match couperet après une phase de poule terminée en tête d'un groupe très relevé avec l'Allemagne et le Portugal. Et c'est donc une nouvelle compétition qui commence pour les joueurs de Didier Deschamps. Les impressions du premier tour peuvent vite être balayées, c'est ce qu'a rappelé le sélectionneur hier en conférence de presse.
L'ambition et l'objectif d'être en quart, donc ça passe par une victoire contre la Suisse. Mais pour ajouter à ça, oui, les impressions du premier tour, je vois cette équipe d'Italie qui a fait sans doute la meilleure impression sur les trois matchs de poule. Ça n'a pas été simple, pour pas dire que ça a été très compliqué pour eux. Donc tous les matchs sont très difficiles, peu importe les équipes, parce qu'elles sont toutes bien préparées, parce qu'il y a des joueurs de qualité. Et en face de nous, il y aura des joueurs de très bonne qualité aussi.
Didier Deschamps avec Cyril de la Morinerie, l'un de nos envoyés spéciaux en Roumanie. Rendez-vous dès 20h sur Europe 1, le Europe 1 Football Club autour de Lionel Rosso. En cas de victoire, la France va affronter le vainqueur de l'autre match du jour. Croatie-Espagne, ce sera à 18h.
On va falloir surveiller ça. Retour sur les matchs d'hier à présent avec une surprise et une chute.
Oui, la surprise est tchèque, vainqueur 2-0 des Pays-Bas. Les joueurs de la République tchèque ont éliminé les coéquipiers de Memphis Depay. Et la chute, c'est celle du tenant du titre, le Portugal, battu 1-0 hier soir par la Belgique. But splendide de Thorgan Hazard, match serré, tendu, qui aurait pu aller en prolongation. Mais ce sont les Belges qui se qualifient pour les quarts de finale avec deux points noirs pour eux hein, tout de même. Les blessures de Kevin De Bruyne et de Eden Hazard.
Allez, le Tour de France et le maillot jaune qui a déjà changé d'épaule.
Oui, Julien Alaphilippe, grand vainqueur samedi, a été piégé hier. La grande performance du jour, elle a été pour Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais, pour son premier tour et déjà en jaune. Une émotion très forte pour lui hier après sa victoire. Mathieu Van Der Poel, c'est le petit-fils d'un certain Raymond Poulidor, décédé en novembre 2019 et qui n'avait lui jamais porté hein, ce maillot jaune. Un Van Der Poel impressionnant même pour ses adversaires, comme Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale.
C'était vraiment épatant de voir Mathieu. On s'est dit, c'est clair qu'il a envie de maillot jaune. C'est incroyable, j'ose même pas imaginer le plaisir d'avoir un coureur comme celui-ci dans l'équipe. Ça a l'air tellement facile le vélo. Nous, on souffre tellement derrière que ouais, c'est compliqué.
Julien Jourdi au micro de Marguerite Lefebvre qui, avec Axel May, va couvrir cette troisième étape du Tour aujourd'hui entre Lorient et Pontivy. Place a priori au sprinter, cette fois-ci une étape peut-être pour le Français Arnaud Démare.
C'est un final très tortueux, assez étroit. Il faudra vraiment être vigilant en plus avec l'approche en descente justement dans les 3 derniers kilomètres. Il y a de la place pour moi, donc un Tour de France réussi, voilà, ça serait déjà commencer par une victoire et après on verra par la suite.
Et à noter le nouveau rendez-vous sur Europe 1 dès ce matin, journal du Tour, 7h10 chaque matin pendant toute la durée de ce Tour de France. Quelques autres résultats en bref.
Oui, d'abord une déception, celle de l'équipe de France féminine de basket battue hier en finale du championnat d'Europe par la Serbie. Déception parce que c'est la 5e finale consécutive perdue par les Bleus, 5e médaille d'argent donc, après avoir été invaincue jusqu'à cette défaite hier à Valence en Espagne. Une performance, celle de Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix de Styrie en Autriche. 4e victoire de la saison pour le pilote Red Bull qui creuse l'écart avec Lewis Hamilton. En WRC, retour gagnant pour Sébastien Ogier qui remporte le rallye du Kenya. Et puis un rendez-vous tennis, c'est le début de Wimbledon aujourd'hui avec un favori nommé Novak Djokovic.
Merci Aurélien Fleureau, à tout à l'heure. Les courses à présent et le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Lyon-Paris et mon pari gagnant sera le 301 Aïedo. Bien né, ce poulain estimé et longtemps ménagé s'est classé 3 fois second en 3 sorties, sans pour autant avoir réussi à gagner. Sa régularité mériterait bien donc d'être enfin récompensée et force est de reconnaître que tous les paramètres sont réunis cet après-midi pour qu'il puisse remporter sa première victoire. Notez bien, pour Lyon Parigi, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 1, Ayedo.
Merci Thierry Léger, à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bienvenue à tous si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. Il est 5h15. Et à la une, eh bien, ce sont les résultats des élections régionales. 7 à droite, 5 à gauche. Les présidents sortants sont tous reconduits. Les prétendants à la présidentielle, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, sont confortés dans leur fief. Le Rassemblement national échoue à conquérir une région, tout comme La République En Marche. Le début ce matin des épreuves écrites du brevet des collèges en présentiel pour 860 000 collégiens français et maths. Aujourd'hui, demain, ce sera l'histoire, géo et les sciences. Et puis le 4e sommet Choose France. Comprenez, choisissez la France. 120 patrons étrangers reçus par Emmanuel Macron à Versailles. 22 projets d'investissement doivent être annoncés pour 3,5 milliards d'euros et 7 000 emplois potentiels.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec autour de moi Omblin Roche et Angèle Châtelier. On commence par les unes de vos journaux et les vainqueurs des élections régionales qui font évidemment la une un peu partout dans vos régions. Le visage notamment de Renaud Muselier en région PACA, vainqueur haut la main, titre Nice Matin. Muselier, le point serré en première page de la Provence. Il a fait front, écrit le journal marseillais. Le sourire donc de Muselier, le visage fermé en revanche de Marine Le Pen. Le coup d'arrêt, titre aujourd'hui en France. Le RN recalé dans Libération. Macron, Le Pen, la double sanction, titre Le Figaro. Et la droite et la gauche qui reviennent dans la partie, observe La Croix, avec les gagnants à droite, Pécresse à l'aise dans 20 minutes, Xavier Bertrand victorieux et renforcé. Il trace sa route présidentielle, écrit La Voix du Nord, évoqué en patron à la une de La Montagne. Un patron en Auvergne-Rhône-Alpes donc, et la patronne en Occitanie, cette fois à gauche, c'est le titre de Midi Libre, la patronne Carole Delga, présidente la mieux réélue de France. Voilà, beaucoup de politique donc dans vos journaux. Et un peu de sport quand même, avec une étape alpestre à la une de l'équipe. Là, on ne parle pas du Tour de France. On parle de ce 8e de finale de l'Euro France-Suisse ce soir, avec des Bleus, écrit le journal, qui aborde ce match avec la pression du favori. Voici les 3 histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Omblin, on commence avec vous, avec une histoire d'héritage.
Alors, cinéma, paillettes, trahison, fortune, jalousie, voilà un cocktail explosif qui, depuis 10 ans maintenant, détruit la famille de Claude Berry. Elle se déchire effectivement autour de l'héritage du cinéaste, plus précisément autour de son incroyable collection d'art. Le Figaro consacre une double page à cette affaire, une affaire qui rappelle bien sûr la succession de Johnny Hallyday, ouais. Évidemment. Alors ici aussi, 2 clans s'opposent. Celui de Thomas Langman, le producteur, 2e fils de Claude Berry, après Julien Rassam, décédé en 2002. Et le clan de Darius Langman, fils qu'il a eu, que Claude Berry a eu 15 ans plus tard lors de son 2e mariage, et Nathalie Reims, la dernière compagne de Claude Berry. Alors selon Thomas Langman, la fabuleuse collection d'art de son père comprendrait non pas 1200 œuvres, mais 1800. 600 dessins, tableaux, meubles se seraient volatilisés lors d'une vaste escroquerie organisée dans son dos. C'est ce qu'il dit. Tout a commencé lors de l'ouverture du testament après la mort de Claude Berry en janvier 2009. Un document vieux de 20 ans, il tenait à ce que son héritage soit partagé à égalité entre ses 3 fils, Julien, Thomas et Darius, ce 3e fils né hors mariage. Entre-temps, entre l'écriture et la lecture du testament, l'aîné Julien Rassam est décédé, ce qui a changé la donne. Darius Langman, voyant son frère, son demi-frère Thomas, à la lecture du testament se décomposer, propose que tout soit partagé à 50-50. Eh bien, tout se passe plutôt bien à ce moment-là, de manière même franchement informelle, c'est peut-être là le problème, jusqu'à ce que Thomas découvre chez son frère une lampe de grande valeur, pas encore répertoriée, dans la liste des œuvres de leur père. Alors il voit rouge et à partir de là, il ne va plus faire marche arrière. Cette déclaration de guerre traduit un mal-être tenace, hein, souligne le Figaro. Thomas entretenait des relations difficiles avec son père, un père absent, à la différence de Darius, qui a eu la chance de le fréquenter, de tisser des liens, de partager le même intérêt pour l'art. Et puis la vie personnelle de Thomas Langman est chaotique, hein, entre drogue, mauvaise fréquentation et violence conjugale. Il a toujours perdu au civil. Et depuis 2018, il ouvre le front au pénal. Une nouvelle audience se tient aujourd'hui au tribunal de Paris. A priori, il ne va pas lâcher. La guerre du clan Berry autour de l'héritage du réalisateur décédé il y a 12 ans, c'est-à-dire dans
ça,
le Figaro.
Ça fait 12 ans qu'il est décédé, c'est toujours pas réglé cette histoire.
Ça fait 5 ans que c'est la guerre et a priori, c'est pas terminé.
Bon. Tiens, un bon film de Claude Berry devant la télé le soir. Vous êtes plutôt de plateau télé, Ambline, Angèle ?
Oui, complètement. Dîner
seul devant sa série, son film préféré. Voilà. C'est devenu un plaisir. Ouais. Voilà. Et cela deviendrait de plus en plus populaire. Voilà ce que nous raconte Le Parisien ce matin. Sur la base d'une étude, alors c'est un sondage, mais quand même, 47% des personnes interrogées estiment qu'il peut être très agréable de manger seul devant son écran. Pratique qui a été accentuée par la période de confinement. Aujourd'hui, 73% des Français racontent que ces repas pris seuls devant les écrans sont de plus en plus fréquents, notamment avec le télétravail. Forcément, on se retrouve tout seul à la maison et on allume la télé à midi. 32% considèrent que c'est un nouveau type de plaisir solitaire. Alors, il y a la télé, bien sûr, qui fait oublier la solitude quand on est seul à la maison. Et puis, il y a la télé qui permet de fuir aussi le repas en famille quand on n'en peut plus. On préfère parfois grignoter seul dans sa chambre plutôt que de se forcer à être ensemble, raconte un sociologue. Manger seul devient un choix et plus seulement une contrainte. Voilà la conclusion que semble tirer cette étude. C'est l'émergence du repas antisocial.
Ouais, il faut faire attention à ne pas manger trop vite.
Voilà. Et alors, pas seulement chez les ados, beaucoup de gens s'ennuient à table et la série que vous mettez tous les jours, eh bien elle fait de ce moment, je cite là le sociologue Renan Chastelier qui est interrogé par Le Parisien, c'est une petite fête en miniature. Vous mettez devant votre plateau télé, devant votre série préférée, manger seul n'est plus glauque. Alors attention, malgré tout, est-ce qu'on grossit quand on mange devant la télé ?
C'est le risque. J'imagine que oui.
La réponse est oui.
On mange trop vite.
Des études scientifiques montrent le lien chez les jeunes, notamment entre l'utilisation croissante des écrans et le surpoids. Alors évidemment, il y a l'activité que vous ne faites pas pendant ce temps, mais surtout, quand vous regardez un film ou une série, vous mangez sans vous en rendre compte.
Ah oui, c'est ça.
Et vous prenez un paquet de chips et vous allez finir.
Sans apprécier ce qu'on mange.
Voilà. Et vous mangez 25% de plus. Donc,
en plus.
Attention. Attention. Le plaisir de dîner seul devant sa série. Voilà, c'est un sondage qui est à la base porté sur les nouvelles habitudes alimentaires liées au télétravail. Mais voilà, c'est l'une des conclusions. Vous lisez tout ça dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Allez, avant d'aller regarder votre série, hein, Angèle, c'est à vous.
En essayant de ne pas trop grossir. Alors nous, si on arrêtait purement et simplement de tourner à gauche sur la route, vous avez bien compris, selon une étude...
On va tourner en rond, non ?
Non, voilà, vous ne tournez pas en rond, mais vous ne tournez pas à gauche. Selon une étude américaine, 61% des accidents surviennent à une intersection qui a un virage à gauche. À gauche, pardon, c'est le webzine Slate qui a repéré cette étude.
Alors comment on explique ça ?
Si vous roulez en voiture, dites-vous, vous remarquez bien que tourner à gauche, ça implique de couper la route, soit à ceux qui sont sur la file de gauche, soit à ceux qui arrivent à gauche, soit à ceux qui arrivent en face. Mais serait-ce vraiment possible de supprimer totalement les virages à gauche ? Ça semble difficile, déjà à cause de la perte de temps possible, puisqu'empêcher de tourner à gauche, eh bien, c'est forcer l'usager à tourner trois fois à droite. Mais il existe des solutions. Un expert en particulier a travaillé sur la question. Il s'appelle Vikash Gaya. Il est professeur d'ingénierie des transports à la Penn State University.
Mais alors, quelle est la solution ?
Alors, il faut vous imaginer une meilleure gestion des feux tricolores, par exemple, augmenter la durée de certains feux verts, autoriser seulement ceux qui vont à gauche à passer. Mais il faut prendre en compte aussi la fluidité de la circulation. C'est pour ça que Vikash Gaya et son équipe ont développé des algorithmes pour identifier les virages à gauche les plus dangereux ou bien ceux qui il faudrait modifier justement pour la fluidifier cette circulation.
Et ça, alors il y a évidemment limité le risque d'accident, mais il y a d'autres intérêts possibles à ça ?
Tout à fait, du moins c'est ce qu'a pu constater la société de livraison UPS. Il y a moins de 10 ans, ils ont fait en sorte que les trajets de leurs livreurs comportent peu de virages à gauche. Résultat, ils ont quand même économisé 10 millions de carburant, 20 000 tonnes d'émissions de carbone, et ça a même été un gain de temps puisqu'ils ont pu livrer 350 000 colis supplémentaires. Ah bon. Et tous ces chiffres, on peut les lire sur le site australien The Conversation.
Donc ils ont économisé du carburant, même en tournant trois fois à droite, je vais tourner à gauche.
Exactement.
La solution française.
On va faire tourner en bourrique.
Les ronds-points.
Voilà, on est champions du monde en ronds-points.
Mais alors, ça, c'est la solution très française. Parce que les Américains, ils n'ont pas de ronds-points. Ils ont des grands carrefours perpendiculaires avec un feu spécial pour tourner à gauche.
Mais le rond-point s'exporte très bien. Il faut juste y penser.
La grande spécialité française. Merci à toutes les deux. C'était le pressing du jour, 5h24.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes dans le Puy-de-Dôme pour les doigts dans l'assiette ce matin. Bonjour Bruno Gourdon.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre éleveur bovin à la ferme Le Gaec du Soleil. Vous êtes président de l'association Éleveurs Autrement. Vous nous racontez régulièrement dans Les Doigts dans l'Assiette vos pratiques d'élevage, d'éleveur rebouteux avec des soins très particuliers sur vos bêtes. Bon, comment allez-vous ce matin?
Eh bien, écoutez, ça va plutôt bien. Comme un lundi, on va dire.
Le troupeau se porte bien?
Le troupeau se porte très très bien. Depuis quelques temps, il passe maintenant quasiment jour et nuit dehors.
Oui.
Voilà, donc tout va très 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 bien.
Alors, qu'est-ce qui vous occupe en ce moment?
Ah ben, la pluie.
Ah.
La pluie, tout de suite, oui. Normalement, on va être en plein dans les périodes de récolte de l'herbe, en foin. Et donc voilà, pour faire du foin, il faut un peu de chaleur, du beau temps. Et pour le moment, le beau temps n'a pas l'air vouloir de se caler tout à fait tout de suite. Donc on patiente très simplement.
On parlait de sécheresse, c'était quand? C'était au mois de mai qu'on craignait la sécheresse, et puis finalement il pleut trop.
Et ben, c'est ça, c'est cette répartition d'eau qui a quand même été modifiée depuis quelques années. On n'a pas forcément des cumuls à l'année qui varient. On a toujours à peu près les mêmes cumuls d'eau à l'année. Par contre, la répartition sur l'année, elle a complètement changé, quoi. Donc, résultat des courses, on se retrouve avec des périodes. Là, vous voyez, depuis le début du mois, on est à peu près 170 mm d'eau qui est tombée. Donc, ce qui est beaucoup pour un mois de juin. On fait avec, il n'y a pas de souci, hein, tout va très bien, le beau temps va bien revenir, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ça veut dire que l'herbe pendant ce temps-là mûrit. Il faudra faire avec, puisque c'est quand même les fourrages qu'on va faire manger chez nous à 1000 mètres d'altitude, c'est les fourrages que les animaux vont manger pendant 6 mois de l'année. Donc on joue l'hivernage sur ces périodes-là.
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces foins que vous allez récolter dans les semaines qui viennent, ça vous permet de tenir tout l'hiver, d'être complètement autonome?
Oui, c'est ça. Ouais. L'objectif, c'est d'être complètement autonome sur la ferme, puisque c'est un objectif que je me suis fixé. Donc voilà, on récolte les fourrages. Alors moi, je fais du sec, je ne fais pas d'ensilage ou de récolte d'herbe fermentée. Donc c'est tout du sec, séché au soleil, et effectivement on joue les 6 mois d'hivernage.
Ça fait quelle quantité que vous devez stocker?
Voilà, ça fait des tonnages.
Ça fait de la... Il en faut.
Ouais, nous on mesure ça plutôt en hectares. On considère qu'un hectare, c'est à peu près un terrain de foot, puisque c'est la période de l'euro, tout le monde voit à peu près un terrain de foot. Et ben, sur une année, je récolte à peu près 60 terrains de foot.
Ah oui, 60 terrains de foot. Ben voilà, là, on se rend même mieux compte que si vous nous aviez donné un tonnage.
Ben
merci
oui,
beaucoup.
Pense, oui.
Merci Bruno Gourdon. À bientôt.
Bonne journée. Bonne journée à
bientôt
vous.
Dans Les Doigts dans l'Assiette. 5h27 sur Europe 1. Très bon réveil.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
de 7 euros 2020, enfin euro 2020-2021. Du coup, Martin Garrix, Where the People, avec la voix de Bono. Laurent Cabrol, c'est pas encore folichon aujourd'hui.
Eh bien oui, c'est encore un lundi orageux, ma foi. On n'en sort pas de cette série d'orages qui maintenant nous harcèle depuis 3 semaines, 1 mois, avec à la clé aujourd'hui des orages particulièrement violents, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, dans les Alpes du Nord. Et il faut dire que toute cette nuit, ils ont éclaté sur les régions, on peut dire la partie Est, hein, puisqu'il y avait beaucoup de vigilance orange, et ils continuent d'éclater, ils continueront d'éclater aujourd'hui. Bref, on n'en sort pas, et ils seront même présents sur les régions proches de l'Atlantique dans le courant de l'après-midi, et sur l'Auvergne et le sud de l'Auvergne et sur l'Auvergne en général. En ce qui concerne les températures, puisqu'on ne va pas faire dans le détail, hein, les orages seront présents pratiquement en tout lieu. En ce qui concerne les températures, elles vont s'échelonner entre 19 et 35 degrés. 19 à Biarritz, 21 degrés à Rennes, 23 à Paris, Lille et Toulouse cet après-midi. Mais les températures très chaudes à Nice, Embrun, Nancy, Mâcon, Épinal, entre 27 et 28, 29 à Marseille, 31 à Lyon et même 35 degrés à Perpignan.
Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, tout de suite un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
5h30.
Tous ceux qui nous ont soutenus ont permis d'avoir cet élan. Et aujourd'hui, on a un Mistral qui a soufflé dans notre sens, une vraie dynamique. Et on a cassé tous les scores. Hein.
La satisfaction en PACA des électeurs de Renaud Muselier, le président sortant largement réélu avec près de 15 points d'avance sur le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani. Le RN qui ne s'impose finalement dans aucune région. C'est toute la stratégie du parti qui est remise en question. Analyse dans un instant. Dans ce journal aussi, il était moins favorable au coronavirus. Et les Bleus, en 8e de finale de l'Euro ce soir, ils affrontent la Suisse à partir de 21h.
Après le journal, à quoi faut-il s'attendre ce soir? Sur le terrain, les Bleus ont la pression du favori face à cette sélection suisse qui n'a rien à perdre. Alors faut-il se méfier? Le regard de notre consultante foot, Aline Rira, dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils étaient donnés au coude à coude, mais c'est finalement avec près de 15 points d'avance que Renaud Muselier l'a emporté en PACA face à Thierry Mariani pour le Rassemblement National.
Oui, il a fait front, titre ce matin le journal La Provence. Une victoire qui est aussi celle de l'ouverture pour le président sortant de la région. Stéphane Frangy était hier soir à son QG de campagne à Marseille pour Europe 1.
Après une campagne éreintante, la pression retombe enfin. Renaud Muselier, le premier, savoure l'instant sa stratégie de rassemblement à payer.
Dès le départ, notre stratégie était la bonne. Personne ne l'avait vue, personne ne l'avait voulu, personne ne l'avait suivi, personne ne l'avait comprise. Ce soir, chacun peut s'en rendre compte, c'était la bonne décision.
Le président réélu remercie tous ses soutiens comme Nicolas Sarkozy qui ont contribué à créer une dynamique décisive selon le colistier Alain Gargani.
Tous les soutiens, que ce soit Bernard Tapie, c'est de l'addition. Tous ceux qui nous ont soutenus ont permis d'avoir cet élan. Et aujourd'hui, on a un Mistral qui a soufflé dans notre sens, une vraie dynamique et on a cassé tous les scores. Hein.
Mais cette victoire s'explique aussi par l'échec du Rassemblement National selon la colistière Sabrina Roubache.
Je sentais sur le terrain que Mariani quand même n'avait pas la dynamique. Pour les gens du Front National, c'est-à-dire les purs et durs, ils ne représentaient pas le Front National parce qu'ils viennent des LR. Un transfuge est un transfuge. Le terrain ne ment pas. Les gens ne mentent pas.
Et selon elle, ce succès illustre enfin que le Front Républicain reste solide. En effet, selon un sondage Elabe, un électeur de gauche sur deux aurait voté Renaud Muselier. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Espoir déçu en PACA pour le Rassemblement National, donc, mais pas que. Le RN ne s'impose dans aucune région. Pour Europe 1, Claudia Bertram.
L'appel de Marine Le Pen à la mobilisation de ses électeurs n'aura donc pas suffi. La déroute du premier tour s'est vérifiée au second. Au siège du parti, on se refusait hier soir à y voir une autre explication que celle de l'abstention. Une désaffection civique historique a déploré Marine Le Pen dans une très brève allocution. La candidate à la présidentielle s'est tournée rapidement vers 2022. Marine Le Pen a donné rendez-vous aux Français pour, a-t-elle dit, construire l'alternance dont la France a besoin. Mais cet échec au régional contrarie sa dynamique alors que Marine Le Pen avait fait de ses élections un marchepied pour 2022, avant ses derniers jours de vouloir décorréler les deux scrutins. Ça ne fragilise pas, mais ça n'aide pas, explique un cadre du parti. Une défaite qui questionne aussi la stratégie de Marine Le Pen, la dédiabolisation ou normalisation du parti engagé depuis maintenant 10 ans et qui a déjà commencé à diviser durant l'entre-deux-tours. Un proche de Marine Le Pen l'assure, on ne changera pas la ligne. De quoi toutefois nourrir les discussions lors du congrès du parti qui se tient à Perpignan dès ce week-end.
Des élections synonymes d'échec également pour La République En Marche avec un score national de 7% seulement. Un coup de semonce pour la majorité, dit le président du Modem allié du parti présidentiel, François Bayrou.
À l'issue de ce scrutin, donc, la droite et la gauche confortent leur position. Les présidents et présidentes sortants sont tous réélus.
Laissant augurer chez les Républicains une bataille à trois en vue de la présidentielle, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez s'étant largement imposés à l'issue d'un vote encore dominé par l'abstention autour de 66%, comme au premier tour. Et puis, un mot des départementales aussi, avec quelques résultats marquants. Après 23 ans de socialisme, les Alpes de Haute-Provence basculent à droite aussi dans le Puy-de-Dôme et le Val-de-Marne, qui était le dernier département dirigé par le Parti communiste, sans discontinuer depuis 1976.
5h35, une question aussi dans l'actualité ce matin. La montée des températures va-t-elle nous aider à passer un été plus tranquille ?
Oui, même si le variant Delta inquiète et que de nombreux pays mettent en place de nouvelles restrictions, les comportements estivaux ne sont effectivement pas favorables au coronavirus, Anne Le Gall.
Oui, les études ont montré que l'été dernier, la transmission a diminué d'environ 50% par rapport à l'hiver précédent. Cela s'explique à la fois par la montée des températures et par les comportements. On vit davantage à l'extérieur et avec les fenêtres ouvertes, ce qui réduit les risques de contamination. Mais cette année, avec la montée en puissance du variant Delta, le professeur Arnaud Fontanet, responsable de l'unité épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur, nous met en garde contre un excès d'optimisme.
Même si on s'attend à ce qu'il y ait une diminution de la transmission qui est liée à la condition estivale, ça ne suffira pas en soi par rapport à des virus qui sont encore plus transmissibles que ceux qu'on avait avant. Mais c'est vrai que la vaccination va aider, mais ne fait pas tout et ne considérons pas qu'on peut faire n'importe quoi de notre côté en termes de comportement individuel.
Attention donc au relâchement trop rapide des gestes barrières chez les non-vaccinés. Au sein d'une population vaccinée, c'est différent. Non seulement les risques d'hospitalisation diminuent, mais le risque d'être infecté et de transmettre le virus à son tour est aussi réduit d'au moins 50%, à condition d'avoir bien reçu les deux doses.
Anne Le Gall, c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès en appel du meurtre de Patricia Bouchon, cette joggeuse qui avait l'habitude de faire du sport au petit matin avait disparu le 14 février 2011 dans la commune de Boulogne, proche de Toulouse. Son corps avait été retrouvé quelques jours plus tard caché dans un ruisseau. Laurent Desjean, son meurtrier présumé, avait été condamné à 20 ans de prison en première instance contre l'avis du parquet général qui demandait l'acquittement. Reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Pour Sandra Damiano, ça ne fait aucun doute. C'est bien Laurent Desjean qui a enlevé sa sœur alors qu'elle faisait son jogging à 4h du matin. Mais elle espère que ce procès en appel lui permettra de s'expliquer sur le déroulé de cette nuit.
On attend quelque chose de lui, peut-être qu'une émotion viendra, enfin de la compassion peut-être, ça serait bien. Qu'ils nous disent réellement ce qui s'est passé. Nous, on a plein de questions et puis les réponses, elles viennent jamais. Et puis aussi peut-être pour le soulager lui, mais pour soulager aussi surtout les familles.
Fait rare, en première instance, l'avocat général avait demandé l'acquittement, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour condamner Laurent Desjean. Les jurés avaient malgré tout prononcé une peine de 20 ans et pour son conseil, maître Karim Chebani, ce procès en appel doit permettre de corriger ce qu'il estime être une erreur judiciaire.
Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de choses déterminantes. Personne ne peut sérieusement se lever ici et venir dire « j'ai la certitude que ce monsieur a accompli un meurtre ». Ça n'est pas vrai. Donc à partir de là, il faut appliquer la loi. C'est une position très simple, mais elle est impérative. Et malheureusement, je dois dire qu'en première instance, on ne peut faire que ce constat. La loi a été violée.
Et ces deux semaines devant la cour d'appel d'Albi devraient permettre de mieux comprendre les déclarations ambiguës en garde à vue de cet homme et sur sa voiture que des témoins disent avoir vu sur le lieu de l'enlèvement, les principaux indices qui avaient conduit à sa condamnation. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Allez, on termine avec le foot. C'est le jour J pour les Bleus qui affrontent ce soir à 21h l'équipe de Suisse en 8e de finale de l'Euro.
Et notre envoyé spécial Simon Rubin est parti pour ce match à Genève. La rencontre se jouera à Bucarest. Mais évidemment, Genève, devenue le temps d'un affrontement, le théâtre de la guéguerre franco-suisse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que des deux côtés de la frontière, on ne manquera pas l'occasion de charrier le perdant. Reportage donc de Simon Rubin.
Dans la région de Genève, le match de ce soir a réveillé la sempiternelle rivalité frontalière. Ici, au bord du lac, les supporters français viennent en Suisse le week-end et affichent fièrement leur maillot. Laurie et Armélien habitent Annemasse et ils attendent ce match sûr d'une nouvelle victoire des Bleus.
Il y a une bonne compétition dans tous les cas entre la France et la Suisse, hein, au niveau des salaires. Donc là, au niveau de foot, vu qu'ils nous charrient puisqu'ils ont un meilleur confort de vie que nous, là en France, on va les allumer là, avec le foot. On est meilleurs qu'eux. Si à la première mi-temps, on commence à tabasser les Suisses, on viendra les charrier sur leur propre terrain.
De toute façon, c'est toujours dans la rigolade, hein. Toujours bienveillance, tout ça. Ouais, ouais.
Et il faut dire que cela fait 29 ans que la Suisse n'a plus battu la France, mais cette fois, c'est la bonne, assure Hermann Genevois. Enfin, les Suisses vont faire taire. Les Français, un peu trop arrogants.
Ils aiment bien narguer les petits Suisses, mais les petits Suisses, en espérant qu'ils ont bien mangé du bon fromage. Et voilà, j'espère une belle reprise de Shaqiri et hop Suisse, quoi.
Une rivalité frontalière bon enfant. Ce soir, les terrasses de Genève seront noires de monde avec, devant les écrans, autant de supporters des Bleus que de fans de la Nati, l'équipe suisse. Genève, Simon Rubin, Europe 1.
Et puis l'Euro de basket, et pour la cinquième fois consécutive, les Françaises ont échoué en finale, défaite 63-54 face à la Serbie.
C'était le journal de Marion Calais sur Europe 1. Il est 6h20. Et avant de revenir à cette rencontre France-Suisse avec mon invité, place aux courses. Les pronostics du Quintet, c'est à vous Thierry Léger.
C'est sur l'hippodrome de Lyon-Paris que se disputera ce Quintet à handicap qui réunira 15 chevaux et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 13 ayant déclaré forfait. Dépendant de l'entraînement local en très grande forme, celui de Jean-Pierre Gauvin, Bobby d'Argent, le numéro 2, sera sans hésitation mon favori. Il reste sur toute une série d'excellentes performances dans cette catégorie des quintés et il peut être considéré ici comme une certitude à l'arrivée. L'opposition sera constituée des numéros 10, Right to Slove, lauréat de 3 de ses 4 dernières courses et dont les limites actuelles sont encore inconnues, 15, Monsoon, à nouveau proche de son meilleur niveau. 7 Meidomo, irréprochable, quelle que soit la surface ou le parcours proposé, et 5 Jackson, toujours très performant sur cet hippodrome de Lyon-Paris. Enfin, les numéros 9 Carter & Go, 1 Villaro et 14 Plimbo compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 10, 15, 7, 5, 9, As et 14.
Merci à vous Thierry Léger, tous vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 5h41 et j'accueille la consultante foot d'Europe 1. Bonjour Aline Riera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7. Je rappelle que vous êtes une ancienne internationale et qu'on suit cet Euro avec vous jusqu'à la finale. 21h ce soir, France-Suisse, 8e de finale, premier match à élimination directe. Qu'en dites-vous de cet adversaire? Vous la qualifiez comment cette affiche à première vue? Plutôt confortable?
Alors, plutôt confortable, hein, mais on a vu les précédents matchs de huitième, l'Italie avoir beaucoup de mal à se défaire de l'Autriche. On a vu les Pays-Bas passer à la trappe hier, voilà,
contre
les Tchèques. Exactement. Donc, les favoris sont quand même en difficulté sur ces huitièmes pour le moment. Juste rappeler que cette équipe suisse, c'est leur 4e grand tournoi, 2 Coupes du Monde, 2 Euros. Que sur l'Euro 2016, ils se sont qualifiés pour les huitièmes, sur cet Euro-là aussi. La dernière Coupe du Monde, pareil. Donc c'est une équipe qu'on retrouve toujours dans les phases à élimination directe quand elle est qualifiée pour un grand championnat. Juste rappeler qu'il n'y a que 3 équipes qui sont capables et qui ont été capables de faire ça. La France, évidemment, la Belgique et la Suisse. Ce sont les seuls sur les 4 grands championnats à avoir basculé sur les huitièmes à chaque fois. Donc ça montre quand même cette qualité de cette équipe suisse. On
Mais
les
la
attend
Suisse
pas
a toujours
du tout.
Perdu. Au premier match à élimination directe, ils n'ont jamais gagné en huitième.
Voilà, mais on sait qu'on les a déjà croisés, que c'était des matchs assez serrés, ça a été un 0-0. Alors il y a eu un 5-2, c'est vrai, en 2014, mais c'est un groupe qui se connaît très bien. C'est le noyau dur est toujours là depuis 2014. Petkovic travaille avec une envie d'être dans la maîtrise du ballon, d'essayer de se projeter assez vite vers l'avant, avec des joueurs capables de fulgurance, une équipe assez équilibrée, assez homogène. Il n'y a pas de grands noms dans cette équipe, il n'y a pas de joueurs exceptionnels, mais ce sont des joueurs qui sont tous soit en Bundesliga, soit en Première Ligue, soit voilà dans des clubs assez intéressants. Donc il y a une belle expérience, un groupe qui se connaît très bien et qui manie parfaitement le ballon et qui a été capable d'embêter un certain nombre d'équipes d'un niveau qui au départ était au-dessus d'eux.
La Suisse donc qui a fait dans ce premier tour, cette phase de poule, un nul contre les Pays de Galles, une défaite 3-0 contre l'Italie, mais qui a gagné 3-1 contre la Turquie, ce qui lui a permis d'atteindre cette 3e place qualificative. À quoi il faut s'attendre ce soir? À une équipe qui n'a rien à perdre finalement, qui va jouer le tout pour le tout, ou qui va jouer la prudence et qui va tout mettre en défense?
Non, je pense que c'est une équipe qui va jouer sans pression, parce que vous l'avez dit, hein, elles n'ont jamais passé ce cap des huitièmes de finale. Elles n'ont jamais gagné, en tout cas sur un huitième de finale. C'est une équipe qui est plutôt joueuse. C'est une équipe qui va pas mettre le but. C'est pas du tout l'idée de Petkovic. Voilà, c'est une équipe qui est capable. Vous l'avez dit, contre la Turquie, ils étaient au pied du mur. Il fallait absolument qu'ils gagnent. Ils ont été capables, à ce moment-là, d'élever leur niveau de jeu. On les avait trouvés un petit peu en difficulté. Moyen contre le Pays de Galles, ils avaient été tordus, broyés par les Italiens qu'on avait trouvés très bons. Et puis, en étant au pied du mur, en devant absolument gagner sur ce dernier match contre la Turquie, eh ben ils ont élevé leur niveau de jeu. C'est Seferovic qui a retrouvé le chemin des filets. Et puis, un Shaqiri qu'on avait trouvé quand même en difficulté, qui a été capable de marquer un doublé, qui est le joueur d'expérience, le métronome. C'est lui qui est capable d'une fulgurance, d'une frappe de loin. Il a un pied gauche assez exceptionnel. Donc voilà,
c'est lui qu'il faudra surveiller ce soir, Shaqiri.
Ah, il y aura pas que lui, parce qu'il y a le jeune Brilem Bolo aussi, qui est un joueur très puissant, qui se pose pas de questions, qui est assez frais, qui arrive un peu dans un grand tournoi sans expérience, mais justement, ça en fait pour lui une de ses qualités. Il calcule pas, il donne tout, et c'est un joueur qui va être aussi à surveiller. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont mettre le bus. C'est pas du tout l'identité de cette équipe suisse. C'est une équipe qui préfère plutôt avoir le ballon. Bon. Donc ça va sans doute s'équilibrer un petit peu.
Du spectacle. Disons un mot des Bleus.
Exactement.
Quand même, Aline Riera. Les Bleus qui sortent de deux matchs nuls de cette phase de poule. Un partout contre la Hongrie, deux partout contre le Portugal. La victoire contre les Allemands, on la doit à un but contre son camp d'un défenseur allemand. Là, on arrive dans les éliminations directes. Ça veut dire qu'il va falloir faire mieux sur le plan offensif?
Bah, il va falloir faire mieux jusqu'à présent. Hein. Vous avez dit, c'est vrai, deux matchs nuls. On a eu le réflexe et la qualité mentale pour aller chercher le match nul contre les Hongrois. On a été un petit peu plus en difficulté sur le match contre les Portugais. Mais là aussi, on retrouve un Benzema qui marque deux buts. Quand on marque un but contre son camp, c'est parce que les Français sont allés mettre la pression. Je rappelle qu'on a eu beaucoup d'occasions, des poteaux, des ballons qui passent juste à côté, un hors-jeu d'une chaussure. Donc, il y a quand même eu dans le jeu des choses... Pas du tout. Il y a quand même eu dans le jeu des choses très intéressantes, et cette équipe de France est capable de se surpasser sur les grands rendez-vous, d'élever là aussi son niveau de jeu quand il y a besoin, quand elle se sent en difficulté. Faire le dos rond, elle a été capable de le faire pendant 30 minutes contre les Portugais qui nous ont dominés. Et puis voilà, aller chercher, elles savent faire, cette équipe de France sait faire sur les matchs à élimination directe. Je rappelle juste qu'on est champion du monde en titre. Donc, on sait gérer ce genre de match. Là, on n'est plus dans l'idée de faire de la qualité. On est juste dans l'idée de faire efficace et d'aller se rassurer qu'il n'y ait pas de pépins physiques. Nos Bleus qui ont joué sous une énorme chaleur, qui là aussi, à Bucarest, vont jouer sous une grosse chaleur. Donc, les organismes sont un petit peu en difficulté. Donc, voilà, sur le match.
Et avec une infirmerie bien pleine.
Exactement. C'est ça. Ça, c'est un peu la difficulté. C'est un peu le point d'interrogation, et la seule inquiétude, c'est de savoir si les joueurs seront tous aptes demain, sauf Lucadine qui est sans doute d'ores et déjà forfait. Donc voilà, c'est peut-être l'interrogation. Mais bon, il y a de très bons joueurs sur le banc, donc je ne m'inquiète pas sur la qualité de cette équipe et la possibilité d'aller au-delà de ce huitième de finale.
Pour vous, Aline Riera, les Bleus sont toujours à ce stade de ce que vous avez vu, les favoris de cet Euro?
Ah, ils vont faire partie des favoris. On a vu l'Italie en grande difficulté contre l'Autriche. Voilà, les Pays-Bas sont passés à la trappe alors qu'ils faisaient partie des favoris aussi. Je rajouterai l'Allemagne parce qu'ils sont, même s'ils sont sur courant alternatif, ils ont été capables de faire un énorme match contre les Portugais. Donc, on reste toujours dans les 4-5 favoris qui pourraient possiblement aller au bout.
Votre pronostic, quel est pour ce soir, pour finir, Aline Riera? Un pronostic?
Bah, ouais, je dirais que 1-3-1, ce serait très bien.
Pour la France?
Ah bah bien sûr.
Merci à vous.
Un peu de chauvinisme quand même.
3 pour la France, on verra ce soir. Coup d'envoi, 21h, c'est à suivre évidemment sur Europe 1. Merci Aline Riera, belle journée, bon match.
Merci à vous.
Europe 1. Et comme Aurélien Fleurot est à côté de moi, je suis obligé de lui demander aussi son pronostic.
3-1, ça me va très
3-1,
bien.
3-1, ça va bien.
Ouais.
Bon, ok.
Griezmann, Mbappé, Benzema, chacun un but. C'est parfait.
Et on en reparlera demain. La France bouge à suivre. Où est-ce qu'on va?
Direction le sud-ouest pour découvrir une jeune entreprise toulousaine qui a trouvé une solution simple et économe pour l'entretien des piscines.
A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil.
Europe 1.
Sébastien Krebs.
Très beau réveil avec Europe 1, 6h-10. À la une ce matin, les principaux enseignements des élections régionales. Abstention confirmée, 66%. Les deux tiers des Français ne se sont pas déplacés. La droite et la gauche se partagent les régions. Le Rassemblement National et La République En Marche n'en remportent aucune. Et au lendemain de ce scrutin, Emmanuel Macron retourne sur le terrain aujourd'hui. Déplacement sur le site d'une future usine de batteries électriques à Douai avant de recevoir des patrons venus du monde entier à Versailles pour le sommet Choose Friends, choisissez la France. Enfin, des températures qui n'en finissent plus de grimper. Nouveau record dans le nord-ouest de l'Amérique et au Canada. La chaleur est telle qu'aux États-Unis, les épreuves de sélection olympique en athlétisme pour les Jeux Olympiques ont dû être reportées.
Écoutez Le Monde Changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de La France Bouge, ces initiatives que nous mettons en valeur chaque matin à travers la France. Et direction donc Toulouse, Aurélien Fleureau, pour découvrir un moyen très simple de gérer l'entretien de nos piscines.
Oui, c'est un enjeu très important dans ce marché de la piscine qui a décollé en France l'an dernier, plus 28%. Nous sommes tout de même le deuxième marché au monde, après les États-Unis, 3 millions de bassins privés. C'est l'occasion de rappeler que ce n'est pas forcément un produit de luxe. 42% des Français qui en ont une gagnent moins de 3000 euros par mois, mais parmi les freins à l'achat pour beaucoup, eh bien, il y a l'entretien. Cela prend du temps, il faut connaître les bons produits, les bonnes méthodes. Voilà pourquoi deux jeunes entrepreneurs originaires de Perpignan et installés à Toulouse ont lancé Flipper, un petit boîtier, un assistant connecté qui va vous permettre de tout programmer et piloter à distance.
Flipper comme le dauphin, comment ça fonctionne?
C'est ça. Alors on peut quasiment tout gérer depuis son canapé. Le boîtier est plongé dans l'eau, il vous donne en temps réel tous les éléments nécessaires à l'entretien. En clair, évitez que votre piscine ne devienne un nid à bactéries ou qu'elle soit surdosée en produits. Il y a des paramètres à prendre en compte, le taux de pH, le filtrage, le chlore, et cela remplace les petites bandelettes papier que l'on met dans l'eau qui ne sont pas toujours très fiables.
Ouais, d'accord. Alors combien ça coûte?
Alors en plus de vous faire gagner du temps, la promesse c'est aussi de vous faire gagner un peu d'argent. Le coût moyen de l'entretien c'est entre 500 et 700 euros par an selon la Fédération française de la piscine. Cette solution Made in France doit permettre d'alléger la facture de 25%, tout simplement en optimisant le dosage des produits, en donnant les temps précis de filtration. Cela permet aussi d'éviter les vidanges entières du bassin et donc évidemment d'économiser de l'eau. Et puis coup de chapeau aux deux cofondateurs de Flipper qui viennent de rapatrier en Occitanie une bonne partie de la production de leur boîtier.
Voilà, en plus c'est Made in France. Flipper, donc le boîtier pour vous aider à entretenir votre piscine. Aurélien Fleureau, merci. 5h52. Et on va regarder ce qui anime les réseaux sociaux. Angèle Châtelier.
Eh bien, ce sont les régionales, évidemment. Sauf qu'hier soir, sur les réseaux sociaux, on parlait déjà de la présidentielle. Il y a eu 12 000 tweets dessus. Et surtout des tweets consacrés à Xavier Bertrand, vainqueur dans les Hauts-de-France, et son discours très présidentiel. Une internaute a par exemple tweeté « Personne n'a dit à Xavier Bertrand qu'il avait gagné la région et pas la présidentielle. » Christophe Castaner, président du groupe La République En Marche, lui s'est aussi fendu d'un tweet acerbe. De quoi parle Xavier Bertrand le soir de son élection dans les Hauts-de-France? Il réannonce sa candidature à la présidentielle. Mais alors ça, c'est pour Xavier Bertrand. Valérie Pécresse était elle aussi en top tweet pour sa victoire en Île-de-France, oui, mais également pour son discours très solennel. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, s'en est amusée sur Twitter. Xavier Bertrand, Wauquiez ou Pécresse s'apprêtent à démissionner aussitôt élu pour faire la campagne présidentielle, avec deux émojis qui pleurent de rire.
Et du côté de la gauche?
Eh bien, alors que la tête de liste en Île-de-France, Julien Bayou, a récolté 35% des voix, on peut noter ce tweet de Nicky Chien, très connu sur Twitter pour ses petites phrases politiques, drôles et sans ponctuation. Après la défaite du candidat de la gauche, elle a tweeté avec humour: Julien Bayou, il a fait le tour de Paris à vélo à l'heure de l'happy hour pour rien, mais ça lui aura fait un peu de cardio. C'est pas perdu et c'est pas grave. Même petite pique du côté d'un journaliste du Figaro, Ronan Planchon. Pas de victoire pour Julien Bayou, dit-il, mais il remporte tout de même le maillot du meilleur grimpeur après son ascension du col du Quartier Latin.
Angèle Châtelier, les réseaux sociaux, 5h53. Et vous avez rendez-vous à 14h avec Christophe Ondelatte pour l'histoire du jour. C'est l'histoire de Jean-Marie Devaux, l'une des grandes affaires criminelles des années 60. Un commis de boucherie, un peu simplé de 19 ans, est accusé d'avoir égorgé la fille de ses patrons âgée de 7 ans. Le récit dans Ondelatte raconte à 14h sur Europe 1 et dès maintenant en podcast sur Europe 1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète, chaque matin avec vous, et on va prendre l'air. Tiens, une idée d'activité ce matin, vous vouliez nous parler de l'essor des escape games. Alors des escape games au grand air, quel est le concept?
Eh bien, c'est le même concept, mais dehors. L'idée est de répondre à la fois aux contraintes de la crise sanitaire et du besoin de reconnexion à la nature qu'éprouve de plus en plus la population. Les offres se multiplient dans tous les départements français avec ces escape games outdoor. Vous l'avez compris, il n'y a pas de salle, mais tous les codes restent les mêmes. Des indices et des énigmes à résoudre pour réussir à s'échapper.
Ok, donc on doit s'échapper, mais alors s'échapper de quoi, du coup ?
Alors, d'une forêt par exemple, l'escape game Forest à une heure de Paris est assez représentatif. Il propose aux participants une immersion totale avec comme seul lien avec l'extérieur de la forêt un talkie-walkie avec au bout un master game qui est là pour vous aider en cas de besoin. C'est un escape game qui dure 20 heures, tout de même 20 heures, avec une nuit dans un campement inclus. Une expérience 100% nature, un peu moins longue de quelques heures seulement, mais le principe reste identique dans la forêt vosgienne, cette fois avec un escape game nommé à l'origine du futur où vous devez faire un jeu de piste pour vous en sortir tout en maîtrisant la carte et la boussole. Il y a aussi Mountain Games qui crée et organise des jeux d'évasion grandeur nature en montagne autour de scénarios à thème mêlant jeux d'énigmes, outdoor et activités physiques et orientation bien sûr.
Voilà, des jeux de piste de grandeur nature, c'est ces nouveaux escape games en extérieur. Les offices du tourisme les déclinent même à très très grande échelle.
Des escape games XXL. C'est le cas en Bretagne qui lance cette année le premier escape game à l'échelle d'une région entière et cela gratuitement, intitulé le Mystère d'Abgral. Ce jeu propose une dizaine de parcours dont chacun est l'une des clés d'un puzzle géant. Une offre touristique qui valorise les facettes moins connues des territoires et qui nous invite encore une fois cette année à voyager local.
Voilà, je retiens celui où on passe 20 heures dans la forêt, dont une nuit sur un campement. Là, on est vraiment sur une immersion. Voilà, ça donnera peut-être des idées à ceux qui nous écoutent d'activités pour l'été avec ces jeux de piste grandeur nature à travers la France en forêt. Pour être dans la nature, merci à vous, Fanny Agostini. À demain.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est lundi. Courage, si le réveil sonne. Nous sommes le lundi 28 juin. Le 5-7 continue avec à la une ce matin, bien sûr, les enseignements à tirer des résultats des élections régionales. Ce niveau d'abstention record, le retour des partis traditionnels et le lancement immédiat de la campagne présidentielle. Hein. Assumé dès 20h. Par l'un des grands gagnants de la soirée, Xavier Bertrand.
Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Ce chemin de l'espoir, il démarre maintenant.
Xavier Bertrand, réélu dans les Hauts-de-France, et le RN qui n'obtient rien, aucune région, et qui recule même. C'est aussi l'un des enseignements de ce scrutin. On va décrypter tout cela à 6h40 avec mon invité ce matin, le directeur adjoint de l'Institut BVA, Édouard Le Cerf, sera avec nous en direct et on verra comment il explique le fait que les sondages n'aient pas prédit très facilement ce qui s'est passé dans ces élections. On est assez loin quand on regarde les résultats hier soir. Tous vos rendez-vous, bien sûr, d'ici 7h, on ira notamment au Royaume-Uni dans la revue de presse internationale où le ministre de la Santé a dû démissionner en plein scandale après des révélations dans la presse, des images de lui embrassant l'une de ses conseillères et en plus ça s'est passé en pleine période de Covid et en plein confinement. Et puis de la musique, comme tous les matins. Ah, ils sont vraiment le symbole de l'insouciance, la fin des années 60, le rêve californien de The Mamas and the Papas dans la partition d'Omlin Roche. Ce sera dans 20 petites minutes. Laurent Cabrol, la météo.
Oui.
Alors.
Bah écoutez, c'est pas brillant. Alors quand même, nous allons lever quelques vigilances. Il subsiste le Cantal, les Puy-de-Dôme, le Cher, la Nièvre, qui seront sous des orages importants dans l'après-midi. Mais l'ensemble des régions sera quand même, faut bien le dire, une des régions sous la pluie. Quoi. Champagne, Ardennes, Lorraine, Bourgogne, Auvergne, Cévennes sont sous la pluie déjà. Ils vont gagner. La pluie va gagner la région Rhône-Alpes, la Lorraine, l'Alsace et la vallée du Rhône. Sur la Loire-Atlantique et la Vendée, nous avons une autre poche pluvieuse, qui elle aussi va faire des petits, et va se diriger vers la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes, le Midi-Pyrénées, et puis quelques éclaircies, on peut les espérer quand même, sur le Nord, la Picardie, la région parisienne. Je ne suis même pas certain qu'il n'y aura pas un petit peu de pluie cet après-midi. Voilà, ce sont des éclaircies furtives et provisoires. Donc c'est une journée pas sympa, faut bien le dire, hein, on ne va pas se cacher et se voiler la face. Ça ne sert à rien, c'est une journée pas sympathique, avec des températures de 18 à Nantes, de 20 degrés à Poitiers, 20 degrés à Bordeaux aussi, 21 à Nevers, vous voyez que c'est pas folichon, hein. 22 à Caen, 23 à Toulouse et Lille, 24 à Paris, 26 à Épinal, et puis quand même un peu plus chaud, Lyon, Colmar, entre 27 et 29, et 30-31 du côté de Nice et Marseille. Température en général bien au-dessous des valeurs saisonnières.
Bon. C'est pas un lundi foufou. Hein.
Comme vous dites, bon.
Merci Laurent Cabrol. Ça va s'améliorer quand même, on va en sortir un jour de cette histoire.
Je pense en fin de semaine, ça ira beaucoup mieux.
Bon, alors on va attendre un petit peu. Laurent Cabrol, merci à vous.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.